Bienvenue sur le podcast Les Nouvelles de la Tziganie avec Armel et Pepo Odigan, conte et musique tzigane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les www.armelpepo.com. N'oubliez pas de vous abonner sur notre émission des podcasts. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons un conte de Matteo Maximoff, écrivain tzigane, La poupée de Mameliga, le livre de la peur, édition chez l'éditeur de 1986. Nous avons bien évidemment l'autorisation de sa fille Nuka Maximoff, pour dire ce conte. Nuka est conteuse et gardienne de l'œuvre littéraire de son père, une richesse inestimable. Nuka, merci du fond du cœur. Et c'est avec toute notre amitié que nous te dédicaçons ce podcast. J'ai bien évidemment retravaillé le conte. Je reprécise que je ne lis pas pour le podcast. Alors, mon travail, c'est quoi? Je fais la structure du conte, je le mets en image intérieure, je me fais comme un film. Je laisse les images défiler et je laisse surtout les mots se poser sur ces images. Et hop, j'enregistre. C'est un travail entre l'improvisation, le jeu. C'est toujours une découverte surprenante. Je vais là où le conte a envie d'aller, en fait. Et ensuite, Pepo écoute mon enregistrement, il joue, et voilà, le podcast numéro 3 est prêt pour vous. Dans le livre, vous chercherez l'histoire d'Evreno Pourechko. Le vieux Pourechko disait « Nous sommes tous des Roms, de ceux que les autres appellent tziganes. Quelles que soient nos origines, quels que soient les groupes et les coutumes, nous parlons la même langue avec des mots parfois différents, mais nous arrivons à nous comprendre. Et parmi nous, il y a les Mieyesti, un groupe de farouches et de costauds. On dit qu'ils n'ont peur de rien. Ils sont du côté des Balkans. Les femmes sont vêtues comme toutes les Romnées, tresses longues, grands yeux, boucles d'oreilles, colliers faits de pièces d'or, larges chemises aux manches bouffantes qui tiennent lieu de paniers, jupes longues et jupons. Les hommes, eux, sont grands et forts. Ils ont de longs cheveux graissés et lissés qui tombent jusqu'aux épaules. Ils portent barbe et moustaches longues. Pantalons larges, glissés dans les bottes. Et les bottes, toujours bien cirées, cachent poignards et couteaux. Il y a pas mal d'histoires sur les Mieyesti. Et il y a celle-ci. Laissons-nous transporter dans un temps lointain, du côté des Balkans. Dans une tribu Mieyesti, le chef allait mourir. Il s'appelait Laïchi. Sous la tente, autour de lui, ses fils, petits-fils, sa femme et ses filles. Et personne ne disait mot. Tous attendaient sa dernière heure, son dernier souffle. Son fils aîné à ses côtés lui disait « Tu vas mourir, père. » Et Laïchi, d'un lent mouvement de tête, approuvait en le regardant. Le père était tranquille. Il savait que Ribka, son fils, pourrait commander à sa place, pour faire régner l'ordre. Oui, oui, je vais mourir. Et je veux de la musique pour m'accompagner, là où je dois aller. Il voulait quitter ce monde comme il avait vécu, avec de la musique, des chants, du mouvement tout autour de lui. Aussitôt, les plus jeunes ont sorti les violons. Les femmes se sont assemblées en chœur et elles ont commencé à chanter. Au début, le chant était triste. Et puis, c'était son souhait au chef. Chanter. Alors les voix se sont faites plus fortes et la musique a lancé sa cadence. Et le vieux père, le vieux Lai Chi, était satisfait. Il écoutait battre le cœur des siens au son de la musique. Et quelques instants plus tard, il a cligné les yeux. Ripka est sortie de la tente pour aller prévenir tous les autres. Chez les Miyesti, comme dans beaucoup d'autres tribus, personne ne doit mourir seul. Surtout quand il s'agit d'un chef. La musique s'est arrêtée. Les chanteuses se sont tues. Lai Chi ne pouvait plus rien entendre. Déjà les Romni commençaient à pleurer. Et Ripka s'est approchée de sa mère et lui a demandé de faire la toilette du défunt. D'autres femmes sont venues l'aider. Au milieu du mouvement de l'affolement général, Ripka, lui, gardait son calme. C'était lui le responsable à présent. Le lendemain soir, tout était bien fait. Lai Chi était dans son cercueil, au milieu de la tente. Deux gros cierges allumés de chaque côté. Un grand feu brûlait pas loin, dehors. Les fils, régulièrement, ramenaient sous la tente un morceau de tôle recouvert de cendres chaudes. Ils y déposaient de l'encens et ils faisaient lentement le tour du cercueil de leur père. Pendant cette soirée de veille, chacun racontait une histoire, une anecdote. Et au bout d'un moment, Ripka, trop fatiguée, avait appelé son frère pour le remplacer, qu'il fasse la garde près du corps de leur père. Les heures de la nuit s'écoulaient. Il y avait toujours un groupe d'hommes dehors, près du feu. Ils veillaient. Et il parlait à voix basse, même si parfois des éclats de voix traversaient la nuit. Un jeune Rom, qui était avec eux, a crié tout à coup. « Ocharano, Ocharano, le fantôme !» Les autres ont regardé dans la direction et ils l'ont vu. Une ombre, une silhouette vacillante, trébuchante. Ils ont reconnu Lai Chi le mort. Et ils ont crié et ils ont réveillé tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tous ont couru dans tous les sens et ont quitté le campement. C'était le grand désordre. Fuir, fuir le fantôme, fuir le Charano. Seul, les chevaux étaient restés là, attachés, oubliés dans la panique. Et puis ce fut le grand silence. Et Lai Chi le mort, car c'était bien lui, dans ce grand vide s'est assis à côté du feu et s'était relevé, sorti de son cercueil. Lai Chi réfléchissait, mais est-ce qu'il m'aurait cru mort? Qu'il m'avait mis dans le cercueil entre les cierges? Il y avait des hommes là qui veillaient près du feu. Il y a eu les cris. Ils ont été tous pris de panique quand ils ont vu une ombre géante, étirée à la lumière des flammes. Mais c'était moi. Mes fils et les autres m'ont pris pour un charano. Aucun d'eux ne voudra plus jamais m'approcher. Je suis pour eux un charano. De ses poches, il a sorti sa pipe et du tabac. Il fumait tout en réfléchissant. Quoi faire? Et comment faire? Et le temps passait, il espérait que quelqu'un reviendrait. Plusieurs fois, il a appelé ses fils et sa femme. Ripka, Chola, c'est moi, je suis pas mort. Le silence a répondu. Lachi s'est levé, il a fait le tour des tentes. Il a regardé personne. Personne. Absolument personne. Il s'est approché des chevaux. Eux, ils n'étaient pas inquiets de le voir. Du coup, Lachi était sûr de ne pas être un fantôme. Sinon, les animaux auraient eu peur eux aussi. Il leur a donné de l'eau. Le temps passait. Et la nuit devenait plus claire. Levé du soleil. Ripka, Chola, c'est moi! Le temps passait. Le soleil haut dans le ciel. Et Lachi qui cherchait à manger dans les tentes, seul, toujours. Ripka, Chola! Où êtes-vous? Ripka, Chola, c'est moi! Et le temps passait. Coucher du soleil. Et Lachi est retourné lui aussi se coucher dans son cercueil. Quand ils viendront, ils me trouveront puisque c'est là qu'ils m'ont mis. La nuit s'est posée. Et las d'attendre, le vieux père, le vieux Lachi s'est endormi. La nuit est passée. Le lendemain, à peine le lever du soleil, alors que Lachi dormait encore, Ripka et les autres sont revenus au campement. Sans faire de bruit, ils se sont approchés de la tente du défunt. Et comme on doit le faire avec les fantômes, avec les charano, le fils s'est avancé silencieusement et rapidement et s'est jeté sur le cercueil ouvert et il a poignardé son père. 20 autres l'ont suivi et le corps de Lachi, le corps du chef, a reçu 20 autres coups de poignard. Ils ne savaient pas qu'ils avaient tué un vivant et non un mort, comme il le croyait. En geste ultime contre les charano, Ripka a planté son poignard juste à l'endroit du cœur de son père. Ripka est soulagée. Plus jamais, Lachi, son père, ne sera un charano. Et la vie a repris. Et tous ont reconnu comme un grand chef Ripka, fils de Lachi. La légende dit que pendant longtemps, lorsqu'un Rom, une Romni ou un enfant mourait, on lui piquait le cœur avec une longue épingle pour qu'il ne devienne jamais un charano. Thank you.